Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le réseau FM+, et vous nous rejoignez pour ce rendez-vous hebdomadaire. Merci de nous accueillir chez vous, parce que nous arrivons parfois comme des clandestins, si vous ne nous attendez pas, et pourtant ceux qui nous connaissent nous retrouvent de manière hebdomadaire pour ce petit rendez-vous de réflexion, de, comment disent les Américains, brainstorming, on dirait aller une tempête, non pas dans un verre, mais dans un cerveau, et on se demande ce qu'il y a dans ce cerveau. Et puis la tempête, c'est pas rien, c'est la tempête qui peut aussi bousculer l'univers dans lequel nous sommes, et justement c'est de cela dont il est question. Bonjour Michel.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Des mots pour le dire, une voix nommée Jésus, l'évangile selon Thomas, donc le livre que vous avez écrit, et qui a été édité aux éditions Dervy. Et nous abordons de session en session, d'émission en émission, les différents paragraphes de ce chapitre, du livre, et on arrive donc à la deuxième partie de la thématique de la création comme catastrophe. Mais si vous me permettez, comme toujours, quelques petites citations justement en ce qui concerne la création. La première, c'est un proverbe français qui dit « Si tous les gens qui vivent ensemble s'aimaient, la terre brillerait comme un soleil. » Ensuite, de Sitting Bull, qui était un Indien, un Amérindien aux États-Unis, qui dit « La terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. » Et enfin, Vaclav Havel, « La sauvegarde de notre monde humain n'est nulle part ailleurs que dans le cœur humain, la pensée humaine, la responsabilité humaine. La sauvegarde de notre monde humain n'est nulle part ailleurs que dans le cœur humain. La pensée humaine, la responsabilité humaine. » Voilà, c'est un bon tremplin pour démarrer ensemble, Michel.
Absolument. Notre brainstorming, je dirais moi notre remue-ménage, si vous voulez, hein, pour respecter la langue française. Voilà, alors, votre dernière citation me fait penser à l'épigraphe de Gandhi que j'ai mise dans mon livre, hein. « Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde, hein. ». Voilà, il faut se changer soi-même, c'est de nous que viendra justement ce changement s'il arrive. Alors, la création comme catastrophe, j'ai bien conscience que ce thème est paradoxal, puisque on présente souvent la création comme quelque chose de positif, hein, comme l'émergence à partir d'un chaos initial, d'un ordre final, et ceux qui, comme les gnostiques par exemple, ont eu l'intuition que cette entrée dans le temps, dans le processus, était quelque chose de problématique, ont été très vite marginalisés ou critiqués. Mais enfin, il me semble qu'avant le déroulement de tout processus, avant toute venue à l'existence, il y a ce qu'on pourrait appeler l'être immuable qui habite l'éternité et dont le temps est précisément le viol. Le temps est le viol de l'éternité. Et ce moment est celui du début pur. Hein. C'est pourquoi on lit dans l'évangile selon Thomas, au Logion 19, Jésus a dit « Heureux celui qui était déjà avant qu'il n'existe ». Si vous devenez mes disciples et entendez mes paroles, ces pierres vous serviront. Vous possédez en effet 5 arbres dans le paradis qui ne bougent ni été ni hiver, et leurs feuilles ne se perdent pas. Celui qui les reconnaîtra ne goûtera pas de la mort. Ce qui me semble intéressant ici, c'est l'opposition entre le verbe être et le verbe exister. Être est supérieur à exister. Alors vous savez que dans la Bible reçue, le premier verbe « être » est affecté exclusivement à Dieu, qui décline son nom de la façon suivante « Je suis celui qui suis », eyé asher eyé en hébreu, hein, que vous avez dans l'Exode chapitre 3 verset 14. Alors on pense aussi à ce Jésus qui est déjà en voie de divinisation dans l'évangile selon Jean. Le verbe être s'oppose à paraître, à venir à l'existence. Par exemple, au début, le verbe, la parole, était de toute éternité, en quelque sorte, hein, et ensuite parut un homme, qui est Jean-Baptiste, qui lui préparait la voie. Vous voyez, alors en grec, vous avez egeneto anthropos, hein, c'est-à-dire paru, apparut un homme. Hein, donc, dire il y eut un homme, c'est oublier l'opposition qu'il y a entre einai, être, un arché, en au logos, hein, et le egeneto anthropos, voyez, hein. Et d'ailleurs, Jésus, dans le même évangile selon Jean, dit au chapitre 8, verset 58, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham n'existât, c'est-à-dire ne parût, ne vint à l'existence, en grec vous avez « genestai », je suis, eimi, hein, prin Abraham genestai, avant qu'Abraham ne vint à l'existence, ego eimi, moi je suis ». Et alors, on a remarqué que toutes les fois que ce « je suis » ego eimi figure dans l'évangile joannique, hein, que ce soit lors de l'élévation ou de l'exaltation de la croix, hein, au verset 28 du chapitre 8, ou lors de l'arrestation de Jésus, au verset 5 du chapitre 18, ou en bien d'autres passages, eh bien c'est d'une théophanie qu'il s'agit. Ça veut dire quoi théophanie? Ça veut dire manifestation de Dieu, manifestation divine. Par exemple, dans le cas de l'arrestation de Jésus, Jésus dit à ceux qui viennent l'arrêter, « Qui cherchez-vous ? » Alors, ils répondent, je crois, quelque chose comme « Jésus de Nazareth », et Jésus répond « Ego eimi ». Alors, on peut traduire « Je le suis » comme le fait, ou « C'est moi », tout simplement, comme le fait Second dans sa traduction. Mais je trouve que c'est oublier la théophanie, ou la numinosité de ce passage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, numinosité? Numinosité vient du latin « numen », qui signifie « puissance sacrée », qui crée en nous une espèce de frisson, hein, un tremendum, comme on dit en latin. On frissonne devant la puissance divine que l'on soupçonne. Eh bien, la preuve, c'est que après avoir entendu ce ego eimi, les assistants tombent, reculent et tombent à terre. Hein. Alors on comprend pas si c'est moi, hein, vous voyez, pourquoi les assistants tomberaient à terre. Donc il faut bien comprendre que pour le rédacteur et aussi pour les lecteurs initiaux de ce passage, toutes les fois qu'on entendait le je suis, le ego eimi, on entendait le nom de Dieu, vous voyez, hein. Et l'évangile de Jean participe de ce qu'on appelle une haute christologie, c'est-à-dire une christologie dans laquelle Jésus a une très grande stature, près d'un statut divin, si vous voulez, à la différence des synoptiques, où alors Jésus est plus humain et est élevé à la divinité par adoptionnisme, hein, lors de scènes comme le baptême ou la transfiguration, par exemple, vous voyez, hein. Alors, voilà, il faut toujours traduire le ego eimi par « je suis hein. ». Donc, quand Jean-Baptiste, je reviens au prologue, dit « je vous ai annoncé la venue de celui qui va paraître hein, », il dit en grec « protos mou en ». Si on traduit « il était avant moi », on perd tout le sens, mais c'est « avant moi, il était ». Vous voyez, de toute éternité, hein. Mais il était avant moi. Vous savez, comme quand on fait la queue, comme on dit au restaurant, ou vous voulez, on dit un tel, il était avant moi, etc. Mais non, protos mouen, c'est avant moi, il était de toute éternité. Vous voyez, Redouane, la langue est très subtile, hein. Depuis toujours, depuis toutes nos émissions, nous analysons l'ordre des mots, etc. Nous questionnons certaines traductions qui sont banales. Il était avant moi, ça veut rien dire, hein. Non, avant moi, il était de tout temps. Alors, dans l'évangile selon Thomas, Jésus dit, au Logion 61, « Je suis celui qui est issu de celui qui demeure égal à lui-même. » Alors, c'est une formulation très énigmatique, bien sûr, hein. Mais si on met une virgule après « celui qui est »,« je suis celui qui est », virgule, comme le fait la traduction de Philippe de Suarez, alors on retrouve le nom hébraïque de Dieu, hein. Et vous savez que pour les protestants, le tétragramme JHVH recèle le nom, le verbe être, hein, d'où la traduction protestante du tétragramme par l'éternel, vous voyez, hein, parce qu'il y a être dedans, voilà. On ne sait pas s'il faut mettre une virgule après « je suis celui qui est » ou pas, hein, les manuscrits anciens ne sont pas ponctués, hein, mais de toutes les façons, l'évangile selon Thomas nous dit que tout être humain, nous, vous et moi, voyez, Redouane, nous pouvons accéder par-delà notre existence qui est, comment dire, dans la facticité, dans la banalité quotidienne, dans le bavardage très souvent. Il y a, au-delà de ça, il y a en nous quelque chose qui est et qui est et qui ne change jamais, vous voyez, hein. Je pense là à ce que dit par exemple un texte canonique, hein. C'est l'épître de Jacques au chapitre 1 verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Vous voyez ? Alors là, ça, c'est assez gnostique, puisqu'il est fait allusion à la lumière, que les gnostiques aimaient beaucoup, hein. Et puis cette idée d'absence de changement et absence de variation renvoie à cet être éternel. Il y a en nous... une substance qui ne change pas. Alors on peut l'appeler notre caractère, notre éthos, c'est-à-dire notre tropisme. Éthos, c'est un mot grec qui a donné éthique, c'est-à-dire notre tropisme particulier. On peut l'appeler comme on veut, hein. Certains diront qu'il y a en nous du divin, hein, que nous sommes théomorphes et théotropes, c'est-à-dire à l'image de Dieu et orientés vers lui. Bon, on peut dire cela. Mais il y a cet être, hein, qui ne change pas, hein, du début à la fin de la vie. Moi, je crois, Redouane, que nous ne changeons pas. Hein. On évolue, c'est sûr, on évolue. Mais il y a au fond de nous quelque chose d'immuable. Alors, je prends un exemple. Hein. Imaginez, vous avez vu, en automne, par exemple, sur une pièce d'eau, une mare, un étang, des feuilles mortes qui flottent à la surface. Alors elles sont à la merci du premier vent, hein, et tout bouge, rien n'est stable. Mais maintenant, nous pouvons accommoder non plus sur ce premier plan en changeant, mais sur le fond. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors on voit les arbres immuables dont viennent ces feuilles flottantes, hein, un monde profond, plus vrai que la surface, parce qu'immuable. Parce qu'il est immuable et ce monde va participer de l'essence, comme on dit en grec, ousia, et non pas de l'apparence, comme on dit en grec, phainomenon, le phénomène, hein, c'est ce qui apparaît. Hein. Et alors ce changement de mise au point, on peut le faire avec notre esprit, hein, voir l'arbre immobile derrière les feuilles mouvantes, mais on peut le faire aussi quand on photographie. Alors vous savez, Redouane, que je pratique la photographie depuis longtemps, on peut le faire avec l'objectif de son appareil, si vous voulez, hein. En mettant au point sur le fond et non pas sur le premier plan. Encore faut-il que l'appareil ne soit pas autofocus, parce que, ou que l'autofocus soit débrayable, hein, pour qu'on puisse faire ce que l'on veut. Hein. Eh bien, ce changement de mise au point, c'est exactement la métanoïa, c'est-à-dire le changement mental ou la conversion spirituelle des gnostiques. Je signale aux auditeurs que j'ai mis sur mon blog, justement, à l'article métanoïa, qui va paraître sous peu, hein, les deux photos que je viens d'évoquer, une photo avec la mise au point sur le premier plan, hein, et une photo avec la mise au point sur le fond. Hein, et j'ai appelé ça métanoïa. Pour illustrer ce que je suis en train de dire. Alors je rappelle l'adresse de mon blog, c'est www.michel-theron.fr. Voilà, vous verrez les deux photos en question. Et alors, dans l'évangile selon Philippe, il y a un logion analogue à ceux de l'évangile selon Thomas. Puisque on lit au Logion 57, le Seigneur dit « Bienheureux celui qui est avant d'avoir été, car celui qui est a été et sera ». Vous voyez ? Alors l'important c'est l'être, la temporalité, le déroulement, le processus ne viennent qu'après, hein, et ce sont des modalités secondaires de l'essence primordiale.